Depuis les studios de Radio Galaxy, c'est l'heure de votre nouvelle émission La Bougeotte, émission donc proposée par Christian Cayol. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui tu nous amènes en Auvergne, mais au mois d'avril.
C'est ça.
Le mois d'avril en Auvergne, c'est triste ou c'est beau?
On peut avoir du soleil, moi je suis tombé moitié-moitié. Ah. Voilà, quelques jours de beau, mais bon, on a fait un bon séjour. Mais c'est l'Auvergne un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que j'ai déjà proposé une émission sur l'Auvergne il y a quelques temps, et là il me fallait chercher donc d'autres lieux, et bon, ça n'a pas été bien sorcier d'en trouver des différents, et surtout, c'est pas la carte postale traditionnelle faite avec des centres hyper connus, incontournables, pièges à touristes, le Puy-de-Dôme, Vulcania, le lac Pavin, Vichy, enfin ainsi de suite. C'est une balade différente, un petit peu hors des sentiers battus.
Si on regarde ta vidéo, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une vidéo.
Des images, oui.
Et donc, dans ces images, effectivement, on voit tout ce qui est des dolmens, des monolithes, des châteaux forts, des ponts, des troglodytes, il y a plein de choses.
Ouais, voilà. T'as bien regardé, je vois.
Qu'est-ce que tu crois? Et on voit même du VTT dans la bouillasse, c'est pas mal aussi.
Oui. C'est pas la meilleure partie de la vidéo, parce que bon, d'abord, c'était dans la bouillasse, c'était très humide, j'ai pas fait trop d'images. Et d'ailleurs, la randonnée, je l'ai écourtée parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Mmh. Et donc, ce n'est pas la meilleure partie. Les images sont sursaturées. Je les ai éclaircies un petit peu parce qu'on ne voyait pas trop. Donc, ce n'est pas des bonnes images. Mais bon, j'ai l'habitude toujours de mélanger le VTT avec le tourisme. Donc, je l'ai fait malgré tout.
Oui, oui. La vidéo est très, très sympa. Donc, on rappelle d'ailleurs, c'est quoi le site pour aller voir la vidéo?
Alors, la vidéo s'appelle « L'Auvergne autrement ». Et vous trouverez le lien sur le site Radio Galaxy ou sur mon site personnel, randovttvideo.free.fr.
Voilà. Et c'est à quelle vidéo? T'en es à 180?
Oui, à peu près. Environ 180, à peu près.
Voilà, donc il y a de quoi voir.
Il y a de quoi voir.
Bon, on attaque par quoi?
Eh bien, commençons en prenant un petit peu de hauteur. Je vous amène sur des points de vue extraordinaires, certains, et très peu connu, très peu fait, très peu visité. Par exemple, le premier que je vous propose, ça s'appelle Pierre Pamol, c'est à Vaulor en montagne. Alors là, il ne faut pas hésiter, c'est une piste forestière sur plusieurs kilomètres avant d'atteindre un petit sommet, 1200 mètres d'altitude. Et là, coiffé de chaos granitique, de blocs en équilibre, d'alignement de pierres et un escalier qui monte au point haut avec une vue à 360 degrés. Vers l'ouest, on voit la chaîne des Puys, avec au centre le Puy-de-Dôme. Plus près, on devine l'agglomération de Clermont-Ferrand avec toute la plaine de la Limagne. Et de l'autre côté, on a les monts du Forêt. Et certains prétendent voir le Mont Blanc, distant de 240 km. Moi, ce n'était pas le cas. C'était un petit peu nuageux. Le soleil pointait par moments. Mais bon, le point de vue vaut vraiment le coup. Ça s'appelle Pierre Pamol.
Et c'est une légende, on voit vraiment le Mont Blanc ou pas?
Oui.
Bon, certainement.
Un autre point de vue, un panorama des plus beaux d'Auvergne, depuis la Vierge de Monton, toute blanche, en calcaire blanc, soi-disant la plus haute Vierge de toute l'Auvergne, 21 mètres de haut, le socle compris, nous en reparlerons. Et puis aussi, vous avez un oppidum. Vous avez le point de vue à l'oppidum de Coran, qui domine l'Allier. On voit le Sancy et toute la chaîne des Puys. Là aussi, nous en reparlerons de cet oppidum. Encore un belvédère, facile d'accès, à la Roche Blanche, près de Gergovie, avec une vue sur tous les monts d'Auvergne. Et là encore, je vous garde une surprise, nous en reparlerons. Alors, l'Auvergne, de nombreuses forteresses, avec au nord celle de Bourbon-l'Archambault, que vous verrez sur ma vidéo. Il ne reste pas grand-chose, hein. Un pan de mur, le donjon, deux tours en ruine. Et son intérêt d'aller là-bas, c'est que son intérêt réside surtout que c'est l'origine de la dynastie des rois de France, avant qu'ils aient été ducs et ne s'installent à Moulins. Mais depuis toute la dynastie des Bourbons, qui commence avec Henri IV de Navarre, même s'il n'a pas vécu là-bas, ensuite Louis XIII, XIV, XV, XVI, non pas XVII, XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Bourbon-l'Archambault servira de modèle, vous verrez à la fin de ma vidéo, puisque je termine toujours avec une aquarelle. L'aquarelle de Nadine se termine sur le lieu de résidence des chanoines de Bourbon-l'Archambault. Voilà. Et autre forteresse, celle de Mauzeuil. Il y a longtemps que je voulais y aller à Mauzeuil, ça ne se faisait pas. Enfin, j'y suis allé. Ce sont des ruines gigantesques sur une hauteur. On le voit de bien loin, c'est visible de très loin. Ce sont les vestiges de la plus vaste forteresse d'Auvergne. il y avait 3 enceintes, 16 tours pour protéger le château, qui était plutôt un donjon carré et qui en fait était la troisième enceinte. À l'époque, on avait donc des meurtrières, un chemin de ronde crénelé, doublé par des ours. Au XIIIe siècle, ce château représentait la forme la plus aboutie de l'architecture militaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'état de dégradation actuel ne vient pas d'assauts ou de combats dans notre temps, puisque le château a été épargné par Mazarin, le château étant à l'époque propriété des évêques de Clermont, fidèles au roi, donc il n'avait pas condamné à être démoli. Tout simplement, ça s'est délabré à partir du moment où les évêques n'ont plus les moyens de l'entretenir, et ils ont commencé à le détruire et à vendre les pierres. Voilà quoi. Bon, alors bien dommage, il en reste quand même assez, et il faut aller le voir, la forteresse de Mauzun. Une surprise, en s'approchant de l'Allier, une surprenante pagode. C'est surprenant ça, on s'y attend pas. Eh bien, c'est la pagode de Fan Vuong Tu. À partir de 1955, à Noyant d'Allier, des familles franco-vietnamiennes, des enfants de Français mariés à des Indochinoises, ils vont arriver par centaines. Alors, cette communauté, elle s'installe dans des corons abandonnés et ils vont s'adapter aux coutumes locales. En 1983, à cet endroit, ces familles édifient un lieu de culte bouddhiste. Un temple au milieu d'un parc, avec de nombreuses statues, un gigantesque Bouddha couché doré, des lotus, des orchidées, des pivoines. L'ensemble est ouvert au public. Pour entrer dans le temple, il faut sortir les chaussures. Mais surtout, les photos sont interdites à l'intérieur. Mais à l'extérieur, on est libre. Alors c'est un peu la preuve quand même, là, on a la preuve que lorsqu'une communauté veut s'intégrer, tout le monde fait un effort et donc cette communauté, elle est parfaitement intégrée à Noyant d'Allier. No comment. Oui, je le dis no comment parce que quand on reproche souvent à certaines communes de ne pas vouloir intégrer certaines communautés, lorsque chacun est mis du sien, ça se fait très bien.
Oui, complètement, on est d'accord.
Changement complètement. Un artiste qui ne court pas les rues, puisqu'il travaille en pleine forêt. Rufino. Et des sculptures, les sculptures du pont de la Morge. Lui, il fallait le trouver aussi, en pleine forêt. Alors c'est davantage un homme qui sculpte dans la montagne pour l'éternité. Un cheminement inattendu sur 2 kilomètres, dans les combrés, c'est-à-dire c'est vallonné, c'est des forêts. Alors on a des femmes élancées, dénudées ou mutilées. Une colombe qui grave des signes avec son bec, et puis une étrange bête avec une carapace. Le sculpteur donne dans le granit la vie à des créatures de pierre, avec sa machine à percussion, sa perforatrice, la meuleuse. En pleine nature, c'est le plus grand atelier qu'il pouvait rêver. Ces sculptures rendent, d'après l'artiste, hommage aux personnes souffrant de maladies, de handicap et de discrimination. Elles délivrent, soi-disant, un message d'amour, de respect, de sagesse. Je reconnais que j'ai eu un peu de mal à faire un lien entre ces nobles idées et le décor ambigu qui semble être davantage la représentation des fantasmes du sculpteur.
Et les statues, elles sont hautes, elles sont grandes?
On passe à côté, elles font 3 mètres 50 de haut, un peu moins peut-être, elles sont en hauteur. Alors,
on les voit de loin?
Oui, de loin non, parce que la route passe au pont de la Morge, donc il n'y a pas trop d'endroits de parking, il faut laisser l'auto, on pense que c'est là, parce que c'est là qu'il y a le plus de vie. Mais rien n'est marqué, c'est pas évident. Et après, dans la forêt, le sentier est marqué. Après, on ne peut que tomber sur les statues. Et le sculpteur habite à quelques centaines de mètres, il a sa maison.
D'accord, ok.
Alors, autre chose encore, un endroit qu'il fallait trouver là aussi, la villa gallo-romaine de Maisonnières. Alors, c'est un site occupé dès les années 50 après Jésus-Christ jusqu'à la fin du 3e siècle, en pleine forêt. Mais bien dégagé de toute végétation, et qui a été mis au jour il n'y a pas très longtemps, en 1986. Les vestiges sont assez espacés, mais sont étalés sur 2000 mètres environ, 2000 mètres carrés. Il y a des panneaux didactiques mis en place qui permettent de comprendre un peu, de se renseigner sur les différentes entités. Et il s'agissait d'une ferme gauloise sous influence romaine. En effet, il n'y a pas de grandes pièces d'apparat, pas de portique ni de mosaïque, mais de petites constructions autour d'une vaste cour quadrangulaire, entouré d'un solide mur d'enceinte. La maison principale n'avait que quelques pièces. Et ce n'était pas celle du maître, qui vivait certainement en ville, mais plutôt celle du fermier, esclave, qui gérait la ferme. Les murs sont en pierre, signe quand même d'une évolution romaine, on n'est pas sûr, des constructions gauloises faites de bois et de terre. Un site complètement différent, l'oppidum de Coran. Alors là, je m'en suis voulu. Comment suis-je passé à côté, moi qui suis allé à Clermont-Ferrand ou par là-bas, Puy-de-Dôme en Auvergne, qui y suis allé de nombreuses fois, je suis passé à côté de cet oppidum de Coran. Je suis allé à Gergovie, siège de Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ, et avoir raté cet oppidum distant de 8 km, je me suis demandé comment j'ai pu le rater. C'est une vaste cité gauloise, de plusieurs dizaines d'hectares. Un des plus grands sites gaulois de France, probablement la capitale, Arverne, avant la guerre des Gaules, qui s'était développée entre 120 et 150 avant Jésus-Christ. Au centre, un monumental sanctuaire, un théâtre, des maisons et des échoppes. C'est un site archéologique majeur qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Des milliers de tessons d'amphores de vin d'Italie sont le témoin d'une activité commerciale intense et d'une cité prospère de plus de 5000 habitants à l'époque. Au départ, on a des habitations gauloises. Et ensuite, à l'époque romaine, les bâtiments reprennent l'emplacement et les plans des bâtiments anciens gaulois. Mais maintenant, ce sont devenus des constructions maçonnées. Des emplacements des constructions gauloises, il ne reste plus que l'emplacement des trous, des poteaux, dans lesquels s'enfonçaient donc des piliers de construction en bois. Mais on a un parcours illustré de vue en 3D de ces bâtiments et qui rendent plus visible ce qui est invisible. Alors l'accès est libre et gratuit. C'est un des centres gaulois les plus importants de France. Si vous êtes par là, faites pas comme moi, ne le ratez pas. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit au tout début qu'on parlait des points de vue, vous avez aussi là un des points de vue les plus importants d'Auvergne, le panorama. Ouais. De nombreux troglos. Là, vous avez au moins trois sites troglodytiques. Vous avez un site à Monton, une soixantaine de cavités qui ont été creusées au pic sur différents niveaux. Une falaise de roches hétérogènes, lave, tuf. Certaines cavités, donc, ont été creusées au pic et d'autres sont partiellement maçonnées. On a des rampes, des escaliers extérieurs, des vires à plusieurs hauteurs, et dont une étroite qui est au niveau supérieur. Les cavités les plus profondes sont celles, bien sûr, du niveau inférieur. Les plus spacieuses peuvent avoir une grandeur de 50 mètres carrés. Des alvéoles ont été creusées à différentes hauteurs dans la paroi pour servir de placard ou d'étagère. Parfois, on a des traces de suie, présence d'une cheminée. On trouve aussi deux pigeonniers. Et cet habitat pourrait dater du 14e siècle, du milieu du 14e siècle. C'était une époque agitée, les grottes servaient de refuge. La dernière ne fut abandonnée qu'au début du 20e siècle. Ce site est clôturé pour des raisons de sécurité. L'accès est donc interdit par arrêté municipal. À moins de 2 km du plateau de Gergovie, dominant le village de Roche-Blanche, une falaise calcaire blanche, bien sûr, percée de cavités, des habitations, des pigeonniers, des caves, ça c'est connu depuis le Moyen-Âge. Mais de nombreux éboulements ont fait décourager tous les séjours. Tous ces habitats semblent remonter aux périodes troubles liées à la guerre de Cent Ans, à cause des hordes de routiers et des chevauchées anglo-saxonnes. L'occupation s'est prolongée jusqu'à la fin du XVIIIe. Maintenant, on a aussi des mégalithes. On a le dolmen d'Urbe, qui est daté de 4000 ans. Il pèse 12 tonnes. Il a le don de marier les filles, comme beaucoup d'endroits. On les appelle les pierres marieuses. Il fallait l'escalader et le descendre, soit en sautant ou en se laissant glisser sur les fesses, au point de lustrer le toboggan. Il y en a plein d'endroits par comme ça. Un deuxième, la pierre à la fade, ou la cabane aux fées, de Blessac. Alors, des génies de l'air, des bois, des rochers et de l'eau, qui, selon la légende, se cachent le jour pour ne sortir qu'à la nuit tombante. Il faut quand même se souvenir que les dolmens, ce sont des lieux de sépulture, en principe collectives et réutilisables. Et on a pu trouver des centaines d'individus et du mobilier datant d'époques très différentes. À l'état actuel, on les rencontre, ces dolmens, sous une forme simple de table. Toute la partie meuble qui était autour est partie, a été érodée. Alors que ce soit un remblai de terre pour faire un tumulus ou de pierre pour faire ce qu'on appelle des cairns. Tout ça, ça a été érodé, il ne reste plus que les grosses pierres qu'on a l'habitude de voir et qu'on appelle dolmen. Alors pour terminer notre émission, voici un tour un peu au-delà d'Auvergne, mais vraiment je ne pouvais pas faire autrement que d'y aller et de vous en parler. Je vous emmène à la cité de la tapisserie. Le mythe, mais pas la mythe, d'Aubusson. Une histoire de plus de 6 siècles qui se perd dans la légende. D'origine arabe, turque, belge ou flamande, la fabrication des draps de lin et de couverture s'est reconvertie à Aubusson en véritable artisanat d'art. La plus célèbre des tapisseries, c'est le millefeuille à la licorne. Sur la vidéo, vous regarderez, qui date du 15e siècle. Et on le voit à la Cité internationale de la tapisserie, c'est le musée. Dans les riches demeures, à l'époque, les tentures de laine, c'est un but décoratif, mais pas que. C'est un but aussi d'isolation, pour se protéger contre le froid des pierres. Et puis surtout, ce qu'il y avait de facile, c'est que on pouvait les rouler quand on est ménager et les transporter dans un autre lieu. À la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, bon nombre de tisserands choisissent d'émigrer vers la Suisse ou vers l'Allemagne. Il s'en est suivi un déclin énorme. Au 19e, les grandes manufactures ont rassemblé tous les savoir-faire nécessaires à la réalisation des tapis et des tapisseries. La production s'est orientée essentiellement vers les tapis. En 1860, plus de 2000 personnes sont employées à Aubusson dans cette industrie. Au 20e siècle, sous l'impulsion d'artistes, la tapisserie connaît un important renouveau artistique. Mais en 1980, la période de déclin commence. J'ai visité un des derniers ateliers d'Aubusson et ça me laisse une immense tristesse. La manufacture Saint-Jean existe depuis le 15e siècle. Elle est devenue royale par lettre patente de Colbert accordant le titre à Aubusson. Elle employait en 1840 600 personnes environ, jusqu'à la guerre de 14. Des lissiers, les lissiers sont les personnes qui font les tapis, qui tissent, avec des métiers de basse et de haute lisse, suivant si le tissage se faisait à l'horizontale ou à la verticale, des teinturiers et des brodeuses. Aujourd'hui, c'est un monument historique, mais alors, les bâtiments sont délabrés, pas de chauffage, et actuellement seulement 3 personnes y travaillent, des personnes qui ont acquis une grande expérience et qui assurent la restauration de vieilles pièces. On les voit sur ma vidéo, avec une aiguille, reprendre l'usure des temps qui a abîmé les tapisseries, elles les reprennent à la main. Mais qui va transmettre le savoir? Qui saura faire la distinction entre des milliers d'écheveaux, de laine chatoyante, des bobines, des navettes, de toutes teintes, de toutes nuances, mais sans aucune référence, puisque les teintures ont toujours été faites au pif, ou plus exactement, à l'œil. Qui remplacera les maîtres lissiers seuls capables de choisir parmi toutes ces nuances celles qui correspondent exactement au carton de l'artiste servant à faire la tapisserie? Toutes les machines sont là, prêtes à fonctionner, mais il n'y a aucune commande. On a vraiment l'impression, sortant de là, d'assister au dernier soubresaut, à l'agonie d'une aventure commerciale et artistique et à la perte définitive d'un savoir-faire séculaire. La tapisserie d'Aubusson, elle est classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2009, de l'UNESCO, pardon. Est-ce que ce classement va servir à revivre ou pas? J'ai pas trop l'impression que ça en prenne le chemin, hélas. Espérons, mais on ne sait jamais. Mais la situation à Aubusson est compliquée. Le déclin démographique a fait passer, en 40 ans, la population de 6500 à 3500 habitants. Les écoles ferment, la pyramide des âges vieillit, l'exode rural est important. La commune est étranglée par la pression financière qu'elle doit faire face à des investissements coûteux, en particulier celui justement de la Cité internationale de la tapisserie estimée à 10 millions d'euros. L'économie piétine, l'emploi se raréfie, la désertification n'est pas un vain mot et malgré le fait qu'on ait vu des choses magnifiques, on se sent désarmé, ému devant ce déclin programmé. Je suis désolé de terminer cette émission un peu tristement, mais c'est le goût de ce que je retire de ma visite à Aubusson avec une grande tristesse. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, puisqu'on a parlé de tout, de l'aquarelle, du VTT qui restera pas dans les annales parce que hélas il faisait pas beau et j'ai pas de bonnes images. Et voilà, mon émission se termine comme ça. Bon, on va essayer de sourire un peu quand même.
Oui, gardons le sourire et l'espoir.
Voilà.
Merci.
Donc, le mois prochain, ouais. Ben, le mois prochain, nous mettrons le cap sur le Cap Cyr. Le Cap Cyr, ben, tout le monde connaît, non?
Non.
Vous connaissez pas tous?
Non, pas toi,
c'est
bien
où,
sûr.
C'est
donc
où?
Tu connais pas.
Moi, je connais pas.
Eh bien, voilà. Alors, je te propose d'être là le mois prochain et je te l'expliquerai un peu mieux. En attendant, je dis bougez, mais bougez en France.
Merci à Christian. Au mois prochain.
Au mois prochain.
Même jour, même heure.
Voilà, avec plaisir.